Comme il en fait pour son philosophie, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette matinée dans le cadre du centenaire du lycée Livet pour une conférence, des conférences, une conférence rencontre dédiée à Benjamin Perret. Alors pourquoi Benjamin Perret et pourquoi le lycée Livet? C'est ce que vous allez découvrir. Ça va être l'occasion également de faire quelques repères. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir l'association des amis de Benjamin Perret, basée à Lyon. Alors, avec comme participant Patrice Savin, maître de conférence à l'UFR de lettres et langages de Nantes, spécialiste du surréalisme, Gabriel Bigot, professeur de lettres au lycée Livet, Dominique Rabourdin, réalisateur de télévision, écrivain, Gérard Proche, président de l'association des amis de Benjamin Perret, professeur de sciences économiques et sociales, écrivain également. Et puis, une assistance technique avec Marie Guéné et David Montaigne. Voilà. Titre de la conférence, Benjamin Perret ou la grande inapplication. En dessous, vous avez une petite référence à Drac. Ça ne veut pas dire que Benjamin Perret a besoin de faire valoir, bien au contraire. Ceci dit, c'est un poète qui reste, sinon méconnu, en tout cas qui reste un petit peu dans les marges quand même. J'aurais bien envie de donner un sous-titre. La grande inapplication, on va voir pourquoi. Le sous-titre, ça pourrait être Benjamin Perret ou l'échappé définitif. Voir en quoi Benjamin Perret résiste, s'échappe, résiste. En 1928, Benjamin Perret écrit « Je viendrai pour déjeuner en 1919 ». Nous sommes en 1928. Il aurait pu très bien s'inviter en 1912 ou 1913, comme nous allons le voir ce matin. Rien ne nous l'interdit de le penser. Maintenant, certains, peut-être certains d'entre nous même, sont toujours à la recherche de traces biographiques, ce qu'on pourrait appeler les traqueurs, il en existe, donc de ceux qui vont exiger la part dérobée de sa vie, ceux peut-être aussi qui vont se satisfaire de faux semblants, de prothèses biographiques, ça existe, des prothèses jusqu'à portée de main, d'autres, peut-être plus avisés, chercheront ailleurs, au cœur des poèmes. Donc nous posons déjà, si vous le voulez bien, une problématique. Que faire de la biographie de Benjamin Perret? Alors on pourrait penser qu'à exhiber des éléments suffisamment tangibles, il ferait un définitif retour vers nous, rien de moins sûr. Et de toute façon, ça serait manifestement désolant d'en rester, je dirais, à l'apparat ou aux apparences biographiques. Découvrir un document photographique d'époque, paru dans la presse il y a quelques décennies, une nouvelle lettre, une photo du jeune Benjamin Perret, que sais-je. Vous verrez que la poésie de Benjamin Perret ne vous oblige à plus de discernement. Maintenant, pourquoi Perret? Pourquoi le lycée? Voyons. Voici un document charnière. Nous sommes en 1898. Dessous, il y a encore marqué « institution ». C'est une année... une année clé, puisque c'est l'année où le lycée va devenir école nationale professionnelle. Benjamin Perret n'est pas encore rentré au lycée. Pour rentrer au lycée, d'ailleurs, parce que ça va devenir en 1910 ENP, faut-il encore passer un concours. Et peut-être la mère de Benjamin Perret a-t-elle vu un peu grand, a-t-elle peut-être trouvé que le costume conviendrait pour Benjamin. La suite va démontrer que il n'était pas fait vraiment pour ce lycée. Deuxième document. Voici un document de 1912-1913, une harmonie. Peut-être que vous allez chercher Perret dans ce document, peut-être. Rien ne dit qu'il se trouve. Ça vous donne quand même une idée de l'ambiance, le port de l'uniforme. Quelque chose qui est bien cadré, si j'ose dire, dans les loisirs, dans les activités. Autre document, un peu plus rapproché, on pourrait faire des zooms, on pourrait s'approcher des visages. On ne trouverait pas pour autant Benjamin Perret. Ah, voici le document. Le document précieux. Certains l'ont déjà ouvert pour voir ce qu'il contenait, les appréciations. Ceci dit, c'est la première fois qu'on va l'ouvrir devant vous. Là. Il a été ouvert, bien sûr, plus ou moins bien recopié, mais il n'a jamais été montré, projeté comme aujourd'hui, c'est la première fois. Donc ici, vous avez le registre des entrées et des sorties de 1909 à 1913. Et ça concerne bien sûr Perret. Oui, on l'ouvre. On ne s'y attarde pas, c'est toute une liste de noms sur la page de gauche, des appréciations sur la page de droite. Mais peut-être voulez-vous voir d'un peu plus près. Perret. Ça correspond bien. 4 juillet 1899. Voyons sur la page de droite. Et là, voilà. Cette appréciation. On le voit aussi porté comme démissionnaire. Il se trouve, on verra un peu plus loin, que le terme de démissionnaire peut être relativisé. Puisque, à consulter ce registre de 1909 à 1913, on compte plus de 200 démissionnaires. Car l'école Livette prépare aux arts et métiers, et les élus sont assez rares. Au mieux, on peut sortir avec un diplôme d'élève breveté, parfois rien. Parfois, on accède aux arts et métiers. Donc c'est la voie glorieuse. Perret, il en sera vraiment tout autrement. J'ai fait un rapide recensement, très rapide, hein, c'est un panel, des appréciations de 1912 à 1913. Donc vous voyez déjà trois appréciations, trois démissions. Je peux descendre un peu. Si tu fais comme dire. Oui, on peut s'arrêter. Voilà. Bon, il y a parfois des choses un peu cocasses, un peu crues, un peu cruelles. Là, on voit bien ce constat d'échec. Donc, on oscille parfois entre l'éloge et le blâme. On retrouve aussi une constante sur l'intelligence qui paraît difficile aujourd'hui à absorber, à consommer. Donc vous voyez ce terme de démissionnaire, il n'est pas propre à Benjamin Perret, on le retrouve aussi ailleurs. Voyons. École buissonnière, intéressant. Intéressant, ça vous dit l'inclination aux dissipations, je mets au pluriel, aux écarts. Ce pluriel, on va dire, est un peu acide. Il existe bien. Même chose. Vous voyez ce passage surligné en vert, ça vous dit bien l'état d'esprit qui régnait. Parce que l'objectif des EMP, des écoles nationales professionnelles, c'était bien de former des élites d'encadrement pour pouvoir effectivement développer ce tissu industriel. Avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et beaucoup, bien sûr, ne pourront pas y participer. Donc une opposition entre ceux qui vont effectivement rentrer aux arts et métiers, ceux qui n'y rentreront pas, et puis bon, ceux qui obtiendront tout simplement un diplôme de l'électricité. Avec un petit mystère quand même, c'est qu'on dit très souvent que Perret, après avoir quitté le lycée, aurait intégré une école de dessin. On ne sait pas laquelle. Bon voilà, on ne va pas s'attarder. Vous avez déjà, je dirais, un peu la tonalité des appréciations.
Juste avant.
Alors le rapport de Perret avec les lycées, il y a encore des choses à dire, les lycées et la poésie, ça doit vous parler. Si les lycées par destination sont faits pour rendre des hommages appliqués aux poètes, parfois prendre leur nom, hein, pour avoir un nom de poète accordé à un lycée. Si les lycées sont faits pour veiller sur les styles, sur les constructions, les lycées n'ont pas pour mission de retenir les poètes, pas du tout. La poésie elle-même ne protège pas le poète, pas plus qu'elle n'immunise le lecteur. Pourquoi ? Il y a toujours une veine qui affleure dans la culture. Une veine qui peut palpiter de temps en temps un peu plus fort. Et juste à côté, une lame à portée du regard, une lame toujours prête à l'emploi, qui nous emporte au plus profond des mots et qui rejette l'inessentiel. Dans la poésie bas pavillon, on ne peut la raisonner. Et le rapport que nous entretenons avec les poètes n'en est que plus redoutable. Les poètes apprennent entre eux, mais il faut les séparer, souvent. Et ce passage à l'Yvette, ce grand silence entretenu, et je pèse ce mot par Benjamin Perret, occupe et dérange. Mais qui oserait annexer, quadriller, cette vie de Perret, cette très brûlante ellipse d'une vie? Qui? Benjamin Perret, précisément parce que le passage à l'Yvette ne passe pas, se moque d'une biographie aussi extensive que structurée. Il se moque encore plus des touches coloristes nantaises qu'on lui attribue, généreusement post-restantes. On sait qu'à Nantes sont stationnés les camions du surréalisme, les grosses machines. Vous connaissez tous les paroles de Breton. Ces camions du surréalisme, ce sont des leurs, bien souvent. Et on n'embarque pas Benjamin Perret dans ses camions aussi simplement qu'on voudrait le faire. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, plus ou moins installés dans ce que je vais appeler l'antéposthume. C'est quoi l'antéposthume? C'est tout simplement cette tendance, cette inclination à tout reporter sur l'inventaire autobiographique, l'inventaire autobiographique rétrospectif. Et on sait qu'il y a une forte inclination à aller dans ce sens, comme si la biographie était quelque chose de définitivement rassurant. Avec Perret, la poésie tonne en son cratère, ou déborde. Avec Perret, il y a toujours des menaces d'incendie. Il faut le tenir à distance. Benjamin Perret, abandonné à lui-même, vous n'y pensez pas, non. C'est beaucoup trop dangereux. Alors, manque encore la photo de classe, puisque vous n'avez eu que l'harmonie ou encore une page du registre d'appréciation. Peut-être à force de chercher le foyer. On finira bien par la trouver, cette photo. Ce matin, vous allez avoir un passage par, je dirais, la chronologie. Est-ce plus rassurant? Je n'en suis pas sûr. Pour ma part, pour paraphraser Perret, dans « Je ne mange pas de ce pain-là », je conclurai tout simplement en disant « Je ne mange pas de ces biographèmes-là ». On va voir la structure maintenant proposée par nos amis pour ce matin. Car vous allez me dire, c'est un peu curieux puisque nous sommes là dans un découpage biographique. Voir. Gabriel. Voici ce passage extrait de Milly, un conte qui va nous renvoyer indirectement, je dis bien indirectement, parce que c'est sublimé, c'est déporté, c'est retravaillé à l'institution, à ce qu'on peut faire de l'institution, comment on peut la détourner. Qu'en dit-il ?
Un élève, excusez-moi, un élève dort et ronfle. Une multitude de bulles de savon s'échappent de sa bouche, s'élèvent et éclatent. Le professeur dirige ses ronflements et l'éclatement des bulles de savon. Le poulet est rôti. L'élève le mange, tandis que le poulet miaule plaintivement. Le poulet mangé, il joue frénétiquement du violon avec une patte de poulet. Le piano braie. Du fond de la salle, un coq chante, sans obéir à la baguette du professeur, qui, tout en continuant à manier sa baguette, s'en va d'un pas majestueux vers le placard où le coq est enfermé. Il ouvre la porte d'un coup sec. Elle est arrachée. Et lorsqu'il la lâche, elle s'envole, comme un papillon, fait le tour de la salle, presque au niveau du plafond, et va finalement s'y fixer en ronronnant. Le piano braie.
Au fond, dose un arrêt d'une dizaine de minutes entre la partie 2 et la partie 3.
L'ordre de nos interventions va être à peu près chronologique, avec des lectures qui seront assurées en grande partie par Gabriel Bigot, avec, nous écouterons aussi des enregistrements de la voix de Benjamin Perret et de la voix d'André Breton parlant de Perret et des poèmes de Perret lus par Pierre Brasseur pour une collection chez Segers du début des années 60. Je vais céder un instant la parole à Gérard Roche qui va rappeler ce que Perret écrivait dans son texte « La parole est à Perret » sur justement ses souvenirs de lycéens, après la description des cours du lycée Livet que vient de nous lire Gabriel.
Alors, souvenir, c'est beaucoup dire, hein, puisque Claude Bruyantin nous l'a rappelé, il y a beaucoup d'absence sur l'enfance de Perret. On sait très peu de choses, il n'en a dit pas grand-chose. Le texte, qui est un texte automatique d'un conte Midi qu'on vient d'entendre, si on veut trouver une référence à l'institution scolaire, il faut la trouver dans ce texte dont vient de parler Dominique en 1943, « La parole est à Perret ». Voilà ce qu'il écrit, c'est extrêmement bref. On sait que pour l'enfant, l'école est une lourde suggestion, une sorte de prison, dont il est libéré chaque soir, mais une prison combien préférable, rétrospectivement, à celle où je me trouvais. Enfin, l'instituteur préfigure un geôlier, mais tellement plus bénin que ceux à qui j'avais affaire jour et nuit. Donc là, il fait allusion, bien sûr, à son séjour en prison, donc à Rennes, où il a été arrêté pour activité subversive. Ça n'étonnera personne.
Alors, je vais donner quelques repères déjà sur Perret. À la question « Qu'est-ce que le surréalisme ?», André Breton répondait en 1934 « C'est la beauté de Benjamin Perret, écoutant prononcer les mots de famille, de religion et de patrie. » Paul Éluard, qui a mis au goût du jour en 1925 avec Perret 152 proverbes et n'hésitait pas à dire que Perret était un bien plus grand poète que lui, écrivit dans sa présentation des poèmes de Deux derrière les fagots, « Ma fierté est de ne connaître que des hommes qui aiment autant que moi cette poésie spécifiquement subversive, couleur d'avenir. » Les peintres surréalistes majeurs, Harpe, Ernst, Man Ray, Tanguy, Miro, Picasso, Matta, Brunner, Tamayo, Toyen, excusez du peu, eurent à cœur d'aider leur ami en illustrant ses poèmes, « Le passager du transatlantique », Immortelle maladie, dormir, dormir dans les pierres, je sublime, je ne mange pas de ce pain-là, feu central et ses contes, mort aux vaches et aux champs d'honneur, la brebis galante et les saints mourets, main forte, les rouilles encagées, Le gigot, sa vie, son œuvre, et ses essais, la parole est à Perret, le déshonneur des poètes, le noyau de la comète. Compagnon de la première heure, le début à Paris du mouvement Dada, d'André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupeau et Paul Éluard, animateur avec André Breton du mouvement surréaliste, premier directeur en 1924 avec Pierre Naville de la Révolution surréaliste, la revue la plus scandaleuse du monde, qui publia la photo célèbre où on le voit insulter un curé en soutane sur le bord de la route avec cette légende d'une parfaite objectivité, notre collaborateur Benjamin Perret insultant un prêtre. Perret fut lié aussi de grande amitié avec Robert Desnos, Jacques Prévert, Marcel Duhamel et Yves Tanguy du temps de la fameuse rue du Château. Mais Benjamin Perret n'est toujours pas reconnu, sauf par ses pairs, comme un des plus grands poètes de sa génération et ne fut à sa mort, le 18 septembre 1959, il y a plus de 50 ans, salué par quelques amis. Mais de quelle manière? Et je vais citer très brièvement le texte de Julien Gracq qu'on a déjà vu tout à l'heure. Benjamin Perret, homme d'un seul tenant, est mort très riche. Laissons les critiques s'en apercevoir après-demain. Je ne veux ce soir que rouvrir ses poèmes et me laisser arrêter par un titre dédié à l'amitié et à la fidélité qui ôterait aujourd'hui même à ses ennemis l'envie de sourire. Toute une vie, mot auquel si peu d'existences peuvent se mesurer, mais la suivre, oui, qui agrandit pour moi infiniment ses poèmes et que la mort aujourd'hui contresigne, c'est si rare, impeccablement. Et pour donner un peu le ton des raisons qui font que nous aimons Benjamin Perret, c'est pourquoi nous sommes ici, je vais vous lire quelques réponses de Perret à un questionnaire établi par le nouveau dictionnaire des contemporains. Quelques questions essentielles. Par exemple, sport pratiqué, il dit « Aucun, assez de moyens d'abrutissement nous sont donnés sans recourir au sport. » Distraction et violon dingre, insulter les curés. Mets et boissons préférées, homard dans toutes ses préparations et bourgogne. Animal familier, chat. Collection aucune. Début dans la vie, guerre de 1914, ce qui a tout facilité. Événement au cours de sa carrière, pas de carrière, mais prix, distinction aucun. Livre publié, la liste est un peu longue, je viens de la lire, et collaboration à toutes les publications surréalistes et particularité, déteste les curés, les flics, les staliniens et les commerçants. Voilà. Donc je pense que le ton est un tout petit peu donné. Maintenant, nous allons écouter la voix de Benjamin Perret parlant de sa découverte de la poésie moderne. C'est le 2. Alors, Perret disait fièrement qu'il avait perdu tous ses poèmes d'avant le surréalisme et le dadaïsme. Malheureusement pour lui, quelques chercheurs obstinés les ont retrouvés et en ont publié dans les volumes des œuvres complètes de Benjamin Perret. Donc, pour vous donner une petite idée de l'évolution de la poésie de Perret, on va d'abord entendre un de ses tout premiers poèmes qui s'appelle « La nymphe du bosquet ».
La nymphe du bosquet. Une nymphe de porcelaine, aux yeux clairs de pâle pervenche, esquisse sa grêle candeur sur l'argent des eaux en langueur, et de son amphore qui penche, titille lentement sa peine. Un saule d'autrefois étend nonchalamment son feuillage qu'agite un lent frissonnement. Et la nymphe, le long de l'heure, murmure sa plainte assourdie. Le saule lui chuchote bas des mots qui ne consolent pas, car sa frêle voix attiédie, toujours le long de l'heure, pleure.
Alors donc ce poème a été publié par Benjamin Perret en 1919. Comme le soulignait Dominique Rabourdin, un certain nombre de ces poèmes que Perret qualifiait de mallarméens ont été publiés. Je pense qu'on pourrait plus les rattacher, on va dire, à la fadeur ou à la mélancolie d'un Albert Samin, davantage qu'à Mallarmé. Donc on voit qu'effectivement, Perret prend des libertés aussi par rapport à sa biographie. Et ça rejoint un peu ce que disait Claude Briantet. En outre, on a pu assez rapidement remarquer que Benjamin Perret, en recherchant dans ce qu'on appelle les petites revues, avait finalement incorporé, si j'ose dire, un cercle de poètes qui s'intitulait l'Association des jeunes littérateurs et artistes français, qui alimentait un réseau de revues assez dense, de petites revues poétiques. Alors ce réseau, il comprend les Tablettes littéraires et artistiques de Saint-Raphaël, où a été publié le texte « La nymphe du bosquet ». Il comprend également aussi une revue qui s'appelle « La Tramontane », qui a été publiée à Perpignan, mais qui possédait une section « Bretagne, Vendée ». Et cette antenne, en fait, située à Nantes, comprenait un certain nombre de jeunes poètes dont Perret était proche. On citera notamment le Nantais René Corollaire, qui dédicacera à Perret un certain nombre de textes. Perret participera à son tour à ce jeu, malgré tout, qui est le jeu des jeunes entrants en littérature, c'est-à-dire de saluer et de se faire saluer. On peut dire qu'à ce titre-là, il y a un Perret avant Dada, en quelque sorte. Un Perret qui, comme Joseph Delteil, qu'on retrouve dans ses petites revues, signe des poèmes qui sont très inspirés d'un symbolisme finissant. Trajectoire, je dirais, assez classique, dans la mesure où la publication en petites revues est aussi le fait de Breton, on pourrait citer les Trois Roses, mais aussi le fait de Desnos. On sait finalement, on évoquait tout à l'heure la rencontre des Dadas par Perret. On sait qu'elle s'est faite notamment par un médiateur qui s'appelle Louis de Gonzague-Frick, compagnon d'Apollinaire de la première heure, et qui va être un penseur de la modernité, un penseur vers l'avant-garde, et qui va toujours soutenir les surréalistes, et qui va être un petit peu, autour de tout ce réseau de petites revues, l'un des mentors, l'une des personnalités qui favorise les rencontres, les passages, et il favorisera notamment la rencontre avec Desnos et très probablement, comme je le soulignais, la rencontre avec Breton.
Donc, on peut dire que Perret n'a pas effectivement fait carrière dans la littérature, mais il a ménagé ses entrées en littérature et il est passé, comme beaucoup, par la voie symboliste. On ne peut pas faire donc de Perret ce créateur incréé, ni ce jaillissement soudain. C'est effectivement quand même quelqu'un qui a, fait ses classes, entre guillemets, et c'est un petit peu par ironie par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui a fait ses classes en poésie dans les petites revues. Également, à Nantes, on verra très rapidement que son nom va être diffusé, cité, puisque le journal nantais Le Phare de la Loire, dès 1919, salue le poète Benjamin Perret comme membre de la section Bretagne-Vendée de la revue La Tramontagne. D'ailleurs, Perret, très vite aussi, va commencer à, rejoindre les cénacles du journalisme, tout d'abord modestement, puisque correcteur au populaire, mais aussi probablement l'auteur de quelques articles dans le populaire de Nantes qu'on n'a pas pu identifier. Mais on sait qu'il avait de longs échanges avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques au populaire, Jules Talandot, qui, d'après un témoignage retrouvé, faisait quand même de Perret un propagateur de Dada à Nantes. Donc, on voit qu'il y a des dates qui se superposent. De 18 à 19, poète symboliste, Perret publie donc dans un réseau de revues, mais très rapidement, Perret va rejoindre effectivement Paris et rencontrer, comme je l'ai dit, les membres du groupe surréaliste. Mais par manque de moyens, il le fait régulièrement, les allers-retours entre Nantes et Paris. Mais on voit très rapidement où sont ses aspirations. Et là, je vais lire un extrait d'une lettre à Tristan Zara, donc propagateur de Dada à Paris. Voilà ce qu'écrit Benjamin Perret à Zara. « Mon cher Zara, Nantes manque totalement d'imprévus. Et pourtant, il y a des gens qui s'amusent quelque part. » Je ne fais rien et m'ennuie aussi beaucoup. Voilà, j'ai cependant très envie d'une bonne plaisanterie. Je me porte très bien, merci. Note, je recommence à faire l'amour. Donc voilà la vision de Perret de Nantes. Et on remarque d'ailleurs des formules très, très proches, très empruntées à Jacques Vacher. Hein, la très bonne plaisanterie, la plaisanterie drôle chez Vacher. On voit que ce qui raccroche essentiellement Perret à Nantes, c'est la figure de Jacques Vacher, figure tutélaire pour Breton et pour le surréalisme. On aura d'ailleurs une allusion, très plus qu'une allusion, à Jacques Vacher, à sa personnalité, en juillet 21, dans une autre lettre à Zara. Où il évoque la personnalité de Vacher et l'enquête que Perret mène pour retrouver la trace de Jacques Vacher, pour essayer de comprendre cette personnalité. Et d'ailleurs, il y retournera sur l'injonction de Breton, enfin sur la demande de Breton, dans les années 48, je crois. Il refait à Nantes, Dominique.
C'est au moment où oui. Breton va rééditer l'anthologie de l'humour noir. Il va mettre Perret, d'ailleurs, dans cette édition de l'anthologie de l'humour noir, et il demande à Perret, qui a gardé sans doute quelques attaches à Nantes, d'aller retrouver au moins des photos de Jacques Vacher qu'il n'avait pas pu trouver auparavant. Alors, je vais, pour situer un peu l'histoire, Perret, donc, a envie d'aller à Paris, a besoin d'aller à Paris, et Breton parle de sa rencontre avec Perret dans Nadja. Alors ça, c'est dans Nadja. Toujours place du Panthéon, un soir, tard. Breton évoque le tout début des années 20. On frappe, entre une femme dont l'âge approximatif et les traits aujourd'hui m'échappent. En deuil, je crois. Elle demande un numéro de la revue Littérature qui n'a pas encore paru et que quelqu'un lui a fait promettre de rapporter à Nantes le lendemain. Elle insiste, à mon grand regret, pour la voir, mais elle paraît être venue surtout pour me recommander la personne qui l'envoie et qui doit bientôt venir à Paris s'y fixer. J'ai retenu l'expression qui voulait se lancer dans la littérature, que depuis, sachant à qui elle s'appliquait, j'ai trouvé si curieuse, si émouvante. Mais qui me donnait-on en charge ainsi, plus que chimériquement, d'accueillir, de conseiller ? Quelques jours plus tard, Benjamin Perret était là.
Donc, effectivement, Benjamin Perret était là, et donc sa première apparition, évidemment, est liée à la revue Littérature. On voit donc qu'effectivement, il y a une cohérence aussi par rapport à ce circuit des poètes dans ce qu'on appelle les petites revues, même si Littérature, par la suite, est devenue une grande revue, ça reste à l'époque l'une de ces petites publications qui prolifèrent dans l'immédiate après-guerre, mais Littérature, je dirais, va connaître le succès qu'on sait aujourd'hui, puisqu'en quelque sorte, elle est la matrice du surréalisme, de la revue surréaliste. Donc Perret rejoint très rapidement le Cénacle de littérature. On le voit au premier vendredi de littérature en janvier 1920. Et très rapidement, il va être un des tenants de Dada et un des propagateurs actifs de Dada, tout en, je dirais, continuant à mener quelques allers-retours entre Nantes et Paris. Ça, je dirais, durant l'année 1920. C'est l'année 1921 où Perret va quitter définitivement le populaire et tenter véritablement l'aventure parisienne, qu'il va apparaître dans la plupart des manifestations Dada. À partir de 21, il participe à ce qu'on appelle la grande saison Dada. On le voit donc sur plusieurs photos, on le reconnaît, il participe évidemment à l'exposition, enfin il est présent lors du vernissage de l'exposition Max Ernst. On le retrouve à la visite de Saint-Julien-de-Pauvre, qui est une des manifestations Dada clés qui jette le discrédit sur la délectation touristique et propose justement en priorité d'explorer des endroits choisis parce qu'ils n'ont pas de raison d'exister. Donc toutes ces manifestations, Perret y participe, il est séduit évidemment par le caractère iconoclaste de Dada, par cette volonté de bouleverser l'ordre établi, par cette ironie aussi, parce que je citais tout de suite la visite à Saint-Julien-le-Pauvre, c'est évidemment quelque chose qui séduit Perret, qui nourrit son sens de la provocation. Ce sens de la provocation, il va être porté notamment dans lors de ce fameux procès Barrès que les dadaïstes vont attenter à l'écrivain. De quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit en fait, dans la tradition dans les années 20, avait été inaugurée dans un club qui s'appelait le club du Faubourg, qui visait à inaugurer des procès d'écrivains. Et à les questionner avec des témoins dans le extrait du Monde littéraire et je dirais à pointer un certain nombre de questions qu'ils pouvaient porter. Donc Barrès est dénoncé et jugé. On peut dire que le procès Barrès est un peu une ironie par rapport à ces procès plus classiques d'écrivains et va beaucoup plus loin puisqu'il s'agit véritablement d'une dénonciation du Barrès nationaliste, du Barrès qui a en quelque sorte pourtant marqué la jeunesse littéraire française, mais qui devient finalement le porte-drapeau, et c'est le terme qu'on peut utiliser, de la France. Donc Perret s'y fait remarquer puisqu'il joue le rôle du soldat inconnu. Il parcourt la Seine à vastes enjambées au pas de l'oie. vêtu d'une capote maculée de boue, invective la salle en allemand, et provoque effectivement un grand chahut dans la salle. Donc ce procès Barrès est en quelque sorte l'une des manifestations fondatrices, clés de Dada, mais tout en même temps, c'est aussi, je dirais, une des manifestations qui va sonner un petit peu la fin de Dada, puisqu'il va y avoir progressivement une séparation des cénacles Dada, et séparation qui aboutira en quelque sorte à la naissance du surréalisme, pour aller rapidement. Après le procès Barrès qui se tient en mai 21, il y aura quand même une petite saison Dada en juin à la Galerie Montaigne, avec des expositions, des lectures auxquelles Perret participera. Mais à partir de, on va dire, de juin, juillet, le Perret Dada va regarder vers le surréalisme.
Alors, pour vous donner une idée de la rapidité avec laquelle tout cela se passe, on vient d'entendre La Nymphe du Bosquet, et il se passe à peu près 2 ans avant que Perret ne publie son premier livre, illustré par Harpe, qui s'appelle Le passager du transatlantique, et là vous allez voir que ça a changé.
Passager de seconde classe et leurs cheveux. J'y cours. Où courez-vous? Nulle part. Moi aussi. Alors.
Bon, Perret va participer à la fondation du surréalisme avec Breton. Il continue à publier des contes, des poèmes. Et en 1924, quand est créée la révolution surréaliste, Perret en est le premier directeur avec Pierre Naville pour au moins les 2 premiers numéros. La révolution surréaliste va publier des poèmes et des textes de Perret, va publier aussi la fameuse photo de notre collaborateur Benjamin Perret insultant un prêtre. Et la révolution surréaliste va aussi publier des petits textes écrits en collaboration avec Éluard, qui sont les 152 proverbes mis au goût du jour. Alors, je vais vous lire le premier. Je vais vous donner un exemple. On ne va pas lire les 152, on a failli, mais on n'a pas osé. Donc, je commence par... Les éléphants sont contagieux.
Qui couche avec le pape doit avoir de longs pieds.
Les curés ont toujours peur.
Une femme nue est bientôt amoureuse.
Le pélican est ce qui se rapproche le plus du bonnet de nuit.
Avant le déluge, désarmer les cerveaux.
Non. Que je me suis demandé de quoi vivait Perret. Donc je pense que c'est Gérard qui va pouvoir répondre plus précisément à cette question, parce que la poésie ne nourrit pas tellement son homme.
Oui, enfin, autant dire que Perret a toujours été plus ou moins en quête soit d'un travail, ou tout simplement comment gagner son pain du lendemain. Son caractère, j'allais dire rebelle, sans concession, ne facilitait pas les choses. Dès les années 20, et même... on va dire dès Nantes, hein, il collabore plus ou moins à la presse, de petits articles, mais la plupart du temps, il s'essaye au métier de correcteur, qui le fera véritablement dès le début des années 30, hein, puisqu'il devient membre du syndicat des correcteurs à ce moment-là. À Paris, il collabore au Matin, mais l'affaire Saint-Paul-Roux, le banquet Saint-Paul-Roux, qui bien sûr est un véritable scandale, fait qu'il est licencié. Alors, dans ces années de 20, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans tous les détails biographiques, je crois qu'il faut retenir le climat de cette époque-là. C'est-à-dire, il y a non seulement la révolution surréaliste, mais il y a eu aussi et surtout une révolution sociale, politique, qui est la révolution russe, et qui, bien évidemment, attire les surréalistes. Par exemple, ils se passionnent pour la lecture du Lénine de Trotsky dès juillet 1925, par exemple. Et bien évidemment, Perret est des tout premiers, il faut le noter, à faire le pas, bien avant Breton, bien avant Éluard, pour non seulement adhérer au Parti communiste français de l'époque, mais à écrire dans l'Humanité, ceci dès novembre 1925. et jusqu'en décembre 1926. Il commence par une chronique régulière cinématographique, où il rencontre des films de Charlot, etc. Mais cette collaboration se radicalise et Perret déverse toute sa rage contre cette société qu'il exècre, hein, qui a été à l'origine, cette société de la boucherie de 1914-1918. Il s'en prend au gradé, aux vieilles ganaches, dans ce régime intolérable que vivent les soldats. Il s'en prend au curé pédophile, autant dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est Perret, bien évidemment. Mais très très vite, là aussi, sa collaboration avec l'humanité va tourner court. Il assiste de plus en plus, lors des réunions, à une bureaucratie qui étouffe absolument toute collaboration libre, toute pensée politique libre. Et puis il va faire une rencontre avec Mario Pedrosa, qui est un jeune intellectuel critique d'art brésilien, qui se rend à Moscou, mais qui s'arrêtera à Berlin, qui reviendra à Paris, et qui est en relation avec Naville. Deuxième événement important, c'est le voyage de Naville en 1927, pour le 10e anniversaire de la Révolution d'octobre, date importante. Bien évidemment, Naville et Gérard Rosenthal, autres membres du groupe surréaliste, rencontrent non seulement Trotsky, mais l'opposition de gauche, et on va leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tellement bienvenus en URSS, et ils doivent rentrer. Et Naville et Perret, qui ont été tous les deux les premiers directeurs de la Révolution surréaliste, qui sont des amis très proches, bien évidemment, cette amitié est aussi un lien important, parce que Pérez interroge Naville sur ce séjour, sur ce qu'il a vu en URSS, et il voit tout à fait le lien avec son expérience interne dans le PC. Et à mon avis, ça c'est une date importante, puisque là aussi on peut dire que Pérez est un des tout premiers surréalistes à adhérer à l'opposition de gauche derrière Trotsky. Hein, selon l'expression d'Istrati, Trotsky étant la réserve d'or de la Révolution. D'ailleurs, à ce propos, on peut entendre Perret lui-même parler de sa collaboration avec le Parti communiste et l'humanité.